Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 20, les Huna tailleurs de pierre. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast qui parle de voyages, d'aventures et découvertes en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de retrouver mon invité vedette, j'ai nommé Thierry Robinet, véritable aventurier qui parcourt l'Asie depuis près de 40 ans et qui va nous emmener refaire un tour aujourd'hui dans cette terre du bout du monde, comme il aime à l'appeler, la Papouasie. On s'était quitté avec les épisodes 14 et 15, avec les découvertes des peuples d'Ani et Asmat, et aujourd'hui nous allons rencontrer un autre peuple tout aussi fascinant et très confidentiel car encore moins connu du monde extérieur. Et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit du peuple Huna, et on va s'arrêter particulièrement dans le village où il y a les plus belles rencontres à faire, le village de l'Arié. Nous voilà prêts pour cette nouvelle aventure. Bienvenue chez les Huna, le peuple des tailleurs de pierre. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Eh bien, c'est le troisième épisode sur la Papouasie aujourd'hui, une belle série qu'on a commencé avec les Dani et les Asmat. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un autre peuple. Et cette fois, on va vraiment aller en altitude, on va aller dans la montagne, rencontrer les Huna, qui sont le peuple des tailleurs de pierre, peut-être les derniers de la Papouasie, voire du reste du monde. Et ce peuple vit vraiment perché dans des territoires montagneux, faits de gorges, de gouffres, de torrents, de cascades. Très difficile d'accès comme territoire, le climat aussi n'est pas toujours évident. Et c'est un endroit que tu connais bien parce que tu y as emmené notamment Nicolas Hulot pour une émission Ushuaïa Nature, dont on va écouter quelques extraits tout à l'heure. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle des Huna? Et puis on va aller ensuite dans le détail de leurs coutumes et de leurs traditions.
Ah, les Huna, pour commencer, moi je vais dire que c'est très certainement un des endroits de la planète qui m'a le plus fasciné. Franchement, parce que j'y ai rencontré les personnages les plus... je vais encore employer le mot extraordinaire, les plus loufoques, les plus marrants et les plus dingues, des doudingues, je dirais. Vraiment, aller dans le territoire Huna, c'est rencontrer des gens, déjà qui sont d'une solidité à toute épreuve. Ce sont des pygmées, des gens de très petite taille. Le plus grand dans le village de l'Arié, bon, après on va parler de toute la région, mais en territoire Huna, la personne la plus grande doit faire 1m45, 1m50. Donc ce sont des hommes de petite taille, des petits hommes, mais qui ont une force, qui ont une joie de vivre qui est communicative à tous. Alors, faut pas oublier aussi, comme tous les territoires papous, ce sont des guerriers aussi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans ce territoire. Le territoire Huna, donc, est d'un accès très difficile. C'est pas une vallée, ce sont pas des collines. Il y a juste un endroit qui est plat. C'est là où, d'ailleurs, ils ont construit un petit altiport à Langda, un petit aérodrome. C'est là où on atterrit. Donc, on arrive là-bas en Pilatus porteur, qui est, je pense, l'avion de la situation, parce que c'est un avion un peu comme un hélicoptère qui est capable d'atterrir sur 50 mètres et de décoller sur 50 mètres. Alors ça, c'est extraordinaire. Peut-être, j'espère que j'aurai l'occasion, dans une prochaine émission, de parler des vols de mission, de tous ces avions extraordinaires pilotés par des Américains ou des Hollandais, qui vont se poser dans des altiports, qui vont se poser dans des territoires vierges, en plein milieu de la jungle, dans des conditions héroïques parfois, parce qu'il y a des vents, ou il y a de la tempête, etc. Et moi, j'ai toujours tiré mon chapeau à tous ces pilotes, qu'ils soient hollandais, américains, suisses aussi, parce que vraiment, si on veut savoir ce que c'est que piloter un avion, notamment un petit avion, du style Pilatus Porter ou Cessna, je crois qu'il faut aller en Papouas et on aura compris. Donc le territoire Huna, ce sont 8 villages en fait, donc c'est pas grand, c'est un peuple, c'est une langue, donc c'est une entité complète, donc dans une seule région, fermée par à l'est, le nord-est, un grand pic qui est le pic Yamin, 4681 mètres, et à l'ouest, il y a des montagnes de type Dolomite, d'ailleurs en allant sur Nalche, ce sont des montagnes très très belles, au nord il y a la passe des Pomèques. Je vais y revenir tout à l'heure. Et le sud, bon, c'est la descente sur le territoire Korowé. Donc, l'endroit est bien gardé, on va dire. Donc, arrivé là-bas, quand on a atterri à l'aéroport de Langda, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller découvrir un petit peu ce territoire. Et il y a un village qui est extraordinaire. ils sont tous extraordinaires, mais il y en a un avant tout qui est extraordinaire, c'est le village de Larié. Larié est le dernier bastion planétaire, je veux dire, vraiment, où des gens font encore descendre à la rivière et vont aller chercher des blocs de basalte pour en faire des herminettes ou des haches de pierre. Il n'y a plus beaucoup d'endroits dans le monde où ça existe. Il y en a un à l'ouest de la Balième, mais qui est en train de péricliter complètement. C'est le village de Yingmei, où on fait encore, mais ce sont plus des pierres que l'on offre pour des dots, pour les mariages. Et la pierre est beaucoup plus verte, beaucoup plus cassante. Alors qu'à Larié, la pierre à Larié ou à Langda, la pierre c'est un basalte qui vient là-haut du fin fond des montagnes du pic Yamin. Et c'est une pierre solide. Quand on tape, aussi elle fait ding, elle sonne vraiment et elle a des veines qui sont superbes. Donc c'est pour ça que les gens continuent.
Pourquoi est-ce que la taille des pierres est si pratiquée en cet endroit très précis de la Papouasie d'ailleurs ?
Avant en Papouas, dans plein d'endroits il y avait. Dans la région des Pomèques, on faisait la pierre. Dans la région de Cozarec et Angourou, il y avait des tailleurs de pierre. Mais tout ça a disparu au fil du temps. Et Larié est resté. Pourquoi ? Peut-être parce que justement, la région est tellement fermée que le voyageur ne passait pas. C'est un endroit de bout du monde, quoi. Difficile d'accès, difficile d'y rentrer, difficile d'en sortir. Donc les gens ont conservé un mode de vie quasi inchangé depuis des millénaires. Donc c'est ça déjà. Et c'est ça qui m'a intéressé au premier abord, d'aller voir des gens qui faisaient quelque chose de différent, quoi. Donc l'esprit d'aventure était là et je crois que j'ai trouvé ce que je voulais justement en allant dans ces coins-là, où en plus ça allie le sport. Parce qu'il faut avoir de bonnes jambes pour descendre et monter des pentes inouïes. Et il faut avoir un petit peu aussi du courage. Parce que ce sont des gens qui peuvent être belliqueux. Puis que des moments, quand il y a un petit problème entre eux, paf, ça te retombe dessus. Tu ne sais pas pourquoi. Et trois, on dort dans des conditions très spartiates.
Alors en plus d'être dans des conditions spartiates et... Franchement, disons-le, hein, dans des conditions très déroutantes pour un voyageur habitué à un minimum de confort, c'est qu'il faut aussi en baver pour y aller. Donc je sais que tu as quelques anecdotes sympathiques sur le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu y as accédé la première fois ?
Disons que je suis une personne qui est curieuse. Les premières années, quand je suis arrivé en Papoua en 82, j'ai rencontré John Wolfe, ce fameux John Wolfe. Et c'est avec lui que finalement on a découpé la Papoua, on a détaillé la Papoua. John m'a aidé aussi à me dire, tiens, dans ces coins-là, je sais qu'il y a quelque chose, alors qu'il n'y était jamais allé, mais il avait entendu parler. Et en discutant avec des chefs de clan dans la vallée de Baliem, il y en a qui étaient allés dans certaines régions. Et finalement, j'ai avancé pas à pas. Après avoir bien découvert les Dani, je suis allé découvrir les gens au Cerceau, dans la région d'Angourouk et Cozarec, qui sont des Epo. Et ensuite, je suis allé dans la région des Pomèques. Donc là, c'est des gens, les Epo aussi, toujours de petite taille, avec un dialecte, le dialecte Mec, mais qui est quelque chose de différent, où les premières missions sont arrivées dans les années 80. Donc, c'est pas vieux du tout. Et de là, j'ai appris que de l'autre côté des montagnes, après cette fameuse passe d'Orange, il y avait un peuple qui taillait les pierres. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au départ ? Eh bien, on y va à pied. Parce que, d'abord, prendre des avions, comme je disais, des gens de mission, ça coûte très cher. Il faut savoir que, par exemple, quand je pars de Wamena et que je vais à Langda en avion, j'en ai pour 1h10. On paye l'aller, mais on paye le retour à vide aussi. Donc après, le gars, il faut qu'il vienne nous rechercher. Il vient nous rechercher à vide, il nous ramène à plein. Donc ça fait 4 trajets, ça. 4 trajets, à la sortie, ça va coûter près de 90 millions de roupies. Donc ce qui n'est pas une mince affaire. Donc on a intérêt à avoir de l'argent. Sinon, faire Wamena Langda, on le fait à pied. Donc des 1h15 d'avion, ça se transforme d'un seul coup en 3 semaines de marche. Donc 3 semaines de marche, c'est pas n'importe quoi. Surtout que c'est pas un territoire plat. Ce sont des dénivelés comme vous pouvez pas imaginer. Des montées de 500 mètres, redescendre 600 mètres. Dès qu'on est en bas, il faut remonter de 500 mètres, redescendre 300 et ça glisse. Et il n'y a pas de chemin. Et moi, la Papoua, je peux vous dire que c'est la seule terre au monde, c'est la terre au monde la plus difficile qui m'ait été donnée de faire du trekking, quoi. De faire de la marche à pied, c'est l'endroit le plus difficile au monde. Au Népal, c'est rien du tout à côté. Je peux vous le dire parce qu'aller vers Namche Bazar, au camp de base de l'Everest, ou faire le tour de la Napurna, on a des chemins qui sont bien fléchés et larges. Bien sûr, quand il y a de la neige, ok, il faut faire son pas. Mais en Papoua, il faut regarder ses pieds constamment. Et en plus, il faut avoir une jambe plus courte que l'autre. ou une jambe plus longue que l'autre. Tout dépend. Donc de temps en temps, on a envie de se retourner et puis marcher en marche arrière pour changer de jambe. Il faut passer sur des ponts qui sont complètement vermoulus. Donc sur des torrents, on se dit, si on se casse la figure, c'est fini, on ne retrouvera plus. Passer sur des roches, des fois, qui sont glissantes, à 3500 mètres d'altitude, et à s'accrocher, tu dis, si je lâche là, parce que souvent j'ai passé, j'avais pas de corde, j'avais rien du tout, si je lâche là, mon gars, c'est fini. Donc faut pas lâcher. Et moi, je l'ai fait avec des clients. Donc c'est pour ça, quand je passe sur cette fameuse passe des Pomecs, qui m'emmène de Epo et qui m'a permis de rencontrer le territoire Ouna, ça c'est une des plus grandes aventures qui m'a été donné de faire depuis que je suis voyageur. Et c'est là d'ailleurs, dans la première émission Asmat dont on a parlé, ces deux Français de Guesso et Delois qui ont traversé la Papouasie, donc ils sont passés dans cette région. Et ils y ont laissé des morts. Et moi, chaque fois que je passe dans la passe d'Orange, je sais où sont les morts. Il y a des amas de pierres et les Papous locaux, ils le savent aussi. Mais vous avez des paysages, vous ne pouvez pas imaginer, avec des espèces de palmiers nains à 3800 mètres d'altitude, des lacs scintillants comme ça dans des espèces de vallées avec des herbes hautes, c'est spongieux de partout. Mais c'est, quelque part, c'est des paysages qu'on verra nulle part ailleurs, avec des orchidées noires aussi. Cette rare, très rare orchidée noire, mais qui pousse à plus de 3000 mètres. On dit qu'elle a une grande valeur, mais alors que là-bas, moi, j'en ai vu des centaines. Et après, il faut descendre sur l'Arrier. Donc, il y a une descente à peu près de 1000 mètres, à pic. Mais j'ai jamais vu des descentes pareilles. Et des fois, on est accroché sur des falaises avec des à-pics de 400 mètres. Donc, ils ont fait des échelles de bois toutes pourries. Il faut descendre, et le gars il te dit, mets le pied doucement à gauche à droite, sinon si tu débarroules jusqu'à dans la rivière Hey qui est en bas. Donc il faut avoir un peu, il faut avoir de l'équilibre, puis il faut être zen. Moi je sais ce que ça veut dire parfois être zen quand je suis en trek, j'ai tellement fait de trek dans ma vie, que quand je suis en Papouasie, souvent je suis là, je dis bon Thierry, zen, parce que bon, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc zen. Et ça marche très bien. En plus on traverse des forêts qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est ces forêts, ces fameuses forêts des brumes. Il y en a en Afrique, dans la région du Ruwenzori, en allant vers le Kilimandjaro, tout ça. Des forêts des brumes où d'un seul coup, il y a des lichens qui sont démesurés. Donc, on marche sur les mousses et dessous, c'est le vide. Donc, on n'est que sur des racines et si on passe à travers, on descend 3-4 mètres. Donc, on passe dans un monde du silence qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est fabuleux.
Et après toutes ces épreuves, on arrive au village de l'Arrier. Donc raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble d'arriver dans ce lieu totalement coupé du monde.
Un village, c'est comme un village des schtroumpfs, je dirais. Donc comme des champignons qui sont posés en rond comme ça au bord d'une arête comme ça de plus de 300 ou 400 mètres d'à-pic. Et en bas, on voit cette fameuse rivière des pierres, la rivière Hey. Comme les Papous disent eux, là-bas, les Ouna, ils disent la Heime. Et l'Arrier qui regarde comme ça. Alors en face, vous avez un autre village qui s'appelle Kinyalengde, qui est de l'autre côté. Mais il faut descendre 500 mètres et remonter 500 mètres en face. Et ils s'entendent. Ils se parlent entre eux. Et à l'époque, parce que maintenant la guerre n'existe plus, même si de temps en temps il y a des bagarres, des bonnes bagarres, mais pour des motifs un peu différents. Mais avant, ils se faisaient la guerre. Alors quand un village avait gagné, ils chantaient tous dans un village et les autres entendaient en face. Donc on sentait les cris victorieux de l'un ou de l'autre du village. Et quand on se retourne derrière, il y a le village de Yalar aussi. Pareil, il faut descendre, remonter la Moumnier dans des conditions terribles. Ils mettent les morts dans les anfractuosités des rochers là-bas. Et là-bas, ils les emmaillotent. On les met dans du rotin et on les accroche à un pic comme ça et on les met contre les falaises. Alors vous passez, puis vous voyez les morts qui sont posés comme ça sur les falaises. C'est assez exceptionnel. Donc quand on arrive à l'Arrier, après bien des efforts, que ce soit en arrivant des Pomecs ou en arrivant de Langda, où c'est terrible la descente et les montées, y a tout le peuple qui nous attend à l'entrée du village. Alors en plus, quand ils savent que c'est moi, d'ailleurs à l'Arrier, je suis pratiquement la seule personne à aller. Il y a eu des personnages qui sont passés, il y a eu notamment Franceschi qui était passé, donc ce célèbre aventurier français, un peu barbousse sous les bords, mais bon, il est passé là-bas. Il n'a pas laissé que des bons souvenirs parce qu'il a brûlé une cabane. Moi, j'y suis allé avec Stéphane Perron pour une émission Stéphane Perron dans la nature, pour Canal+, où là on avait fait quelque chose de bien. Mais j'ai avant tout fait une grande émission avec Nicolas Hulot, où on avait, pas quadrillé, on va pas dire comme ça, mais on était remonté pareil des Asmates au Corroway, au Ouna, et on avait fini au sommet du Pic Carstens, donc un des 7 summits de la planète. Et on avait eu des moments extraordinaires, très forts, en territoire Ouna, et surtout très forts déjà par les paysages, et surtout avec la rencontre des tailleurs de pierre. Parce que finalement, si on vient là-bas, des grands paysages en Papouasie, il y en a ailleurs. Même si la région Ouna, c'est une des plus belles que j'ai vues. Mais à côté de ça, c'est d'aller à la rencontre des derniers tailleurs de pierre de la planète. Et ça, déjà, ça n'a pas de prix. Et quand on voit la gueule des mecs, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, la gueule, oh, mais c'est incroyable. Moi, j'ai rarement vu des gens qui ont un visage pareil, qui vous regardent. Il y en a, ils ont des os dans le nez, l'un, c'est un stylo. Il y en a qui ont un ballon de foot dégonflé qui l'a mis sur la tête. Mais des trucs, mais puis costaud. Le gars qui est vraiment svelte et costaud et tout, et puis qui te regarde, puis en même temps avec un grand sourire, qui te dit « Allez, rentre dans mon village ». Puis après, ils sont tous assis autour de nous, ils nous regardent. Les gamins ont peur, bon, ils se barrent en courant. Les femmes sont autour comme ça. Ça, c'était les premières fois. Un peu méfiant. Et puis après, tu dis « Bon, maintenant que je suis dans ce village, où est-ce que je vais dormir ?» Parce que c'est bien beau ça, mais dormir où ? En plus, on est sur une colline, il n'y a pas de rivière, on ne peut pas se laver. Donc on sait que quand on est à l'arrière, on va être sale tous les jours. Quand on descend à la rivière, on emmène son savon et on se lave. Après, on remonte, on est aussi sale, mais bon, c'est parti jusqu'au lendemain et plus. Alors à l'arrière, il y a quand même une bonne chose, il y a une petite église. Donc les gens sont animistes, mais malgré tout, il y a une petite église. Donc eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Dans l'église, le dimanche, s'ils sont 6 à y aller, c'est déjà pas mal. Mais cette église, moi, je la bénis des dieux. Hein. C'est pour moi un camp de boss fabuleux. Au moins, je suis sûr que le toit est en bon état. Et bon an, mal an, j'ai toujours été bien dans cette église. On a de la place pour dormir. Parce qu'aller dormir dans les cases rondes avec les papous, je l'ai fait. Stéphane Perron, je me souviens qu'il l'avait fait. Donc on dort dans la paille. Et puis c'est la case des hommes. Les hommes dorment avec les hommes et les femmes dorment avec les femmes. Donc les hommes, eux, ils dorment, ils sont tous encastrés les uns derrière les autres, comme ils sont nus avec leur étui peignin. Donc ils sont comme ça, les uns en rond. Déjà, c'est rigolo à voir. Mais le matin, on se lève, on est bouffé par les puces. Et c'est dingue. On ressort, on n'est qu'une plaie, quoi. Donc on y dort une fois, puis en plus il y a la fumée, si on se met un peu debout, on est... Ah non, l'enfer. Donc l'église du Seigneur de l'Arrier, je le bénis, quoi. Ça pour moi déjà, ce sont des choses super.
On va revenir justement à cette tradition de la taille des pierres que tu as juste évoquée. Il faut savoir que les Ouna qui vivent dans ce village de l'Arrier vouent un véritable culte aux pierres de la rivière qui se situe en contrebas, la rivière Ay. Et c'est là que les hommes vont descendre pour trouver les meilleures pierres qui leur permettront ensuite de fabriquer des objets, donc des armes par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus de sélection, de préparation et puis de taille des pierres une fois de retour au village ?
D'abord, on n'est pas tailleur de pierre qui veut. Il y en a qui sont des maîtres de la pierre et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui sont plutôt des paysans, donc ils vont chercher les patates douces, etc. Donc il y en a quelques-uns, les grands tailleurs de pierre, ils se connaissent. Ce sont des grands chefs. Donc moi j'ai connu les plus grands, j'ai connu Ouk Malio, Diman Balio, Nehemia Balio, Teklop, lui qui est peut-être un petit peu moins tailleur de pierre, mais quand même qui a beaucoup appris pendant ces dernières années. Donc voilà, ce sont des gens. Il faut dire d'abord que chez les Ouna, il y a des clans. C'est ou des Balio, ou des Malio, ou des Kisambelou, donc ce sont des clans. Mais c'est quand même, chez les tailleurs de pierre, c'est les Balio et les Malio qui sont les meilleurs. Donc, partir à la rivière quand ils ont descendu, parce qu'à un moment donné, l'herminette ou la hache, ce sont des choses qui s'usent aussi. Et puis, de temps en temps, ils ont besoin d'en avoir plus. Parce que j'en reviendrai après, c'est un commerce aussi. Donc, ils ont décidé d'aller à la rivière. Ok, moi je pars avec eux, on descend. Déjà, c'est une descente vertigineuse qu'eux, avec les gamins, ils descendent comme des bolides. Donc, parce qu'ils ont l'habitude, c'est leur terrain. Moi, derrière, je fais attention. Jusqu'à la rivière. Ok, on arrive à la rivière des pierres. Qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à marcher le long du torrent, un gros torrent, hein, et ils regardent. Alors, ils ont des coins. Ils ont un coin sacré qui s'appelle Gulungbung. Donc, ça, c'est l'endroit où le dieu de la pierre se situe. Donc ils vont arriver, ils sont plusieurs tailleurs de pierre, ils vont se mettre là, puis ils vont commencer comme des incantations. Mais finalement, ils font pas comme des grands chamans, parler, etc. Non, non, ils s'assoient comme une prière et tout, et ils appellent le dieu de la montagne. Parce qu'il faut savoir que juste au-dessus, il y a le pic Yamin. 4581 mètres, c'est assez fabuleux. Donc, et quand il y a des grandes, comme la pluie tombe tout le temps là-bas, de temps en temps, il y a des éboulements et le torrent amène des pierres. Donc, ce sont des pierres basaltiques. Ça qui est important parce que c'est de la pierre qui est dure. Après qu'ils ont fait leurs incantations, ok, ils laissent, ils reviennent, ils passent sous un autre arbre, ils refont encore d'autres incantations, puis ils se baladent. Et les chefs, ils savent. Alors, ils regardent un rocher. Moi, je vois par exemple Ouk, qui est le dernier grand tailleur, parce que Diman est mort maintenant. Diman était certainement un des plus grands, mais comme il n'est plus là, quelqu'un d'autre a pris sa place. Et Ouk, qui sait, il dit celui-là. Alors d'un seul coup, il y a tous les autres qui vont commencer. Alors il faut le casser, le rocher. Des fois, il peut être gros comme une table. Donc il y a deux méthodes. Soit il y a la méthode, on percute avec un autre rocher qu'on a pris en main de texture différente et on se jette dessus en jetant le rocher dessus pour faire fendre la pierre. Parfois, ils arrivent à casser juste des petits morceaux. Mais déjà, avec ça, ils peuvent regarder. Donc, ils savent, en étudiant, ils savent si cette pierre va être bonne ou pas, si elle va être cassante ou pas. Donc, s'il a trouvé le bon filon, ça y est, c'est parti. Donc tous un par un, ils vont se mettre à faire comme ça. Et parfois, la pierre résiste. Donc on va utiliser la méthode du feu. Donc on fait un feu dessous, on met du bois dessous, sur les côtés, on met du bois dessus, on met le feu. Et puis au bout de, je sais pas, 35, 45 minutes ou une heure, donc c'est long, mais eux, les gens ont le temps, la pierre va se craqueler. Et après, donc, ils vont taper dessus et va s'ouvrir tout l'intérieur de cette pierre, de ce rocher, quoi. Et c'est là qu'on voit les veines. Alors moi, ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'ils ont fait ça, les cris de joie de ces gens-là, ils sont tous là. Donc ils vont commencer à casser, prendre des morceaux, et tout doucement, avec un percuteur, ils vont tailler sur les bords, etc., en ayant des façons de faire qui leur sont uniques. Moi, j'ai essayé, mais bon, c'est même pas la peine. Soit je me tape sur les doigts, ou soit je tape n'importe comment, donc je vais casser la pierre. Mais eux, ils ont un savoir hérité des ancêtres, donc ça, c'est le plus important.
Je te propose justement d'écouter un extrait de l'émission Ushuaïa Nature, où tu étais à l'écran, aux côtés de Nicolas Hulot. C'était en 2000, et vous étiez avec les Ouna au pied de la rivière Ay, et ils ont cassé une pierre devant vous. On écoute l'extrait.
Sudapunia, Sudapunia, va gauche. Ini va gauche. Ils cherchent les bonnes pierres. Hein. Ils ont repéré un rocher où ils pensent à l'intérieur, il y a un filon. Hein. Donc après, quand ils vont avoir taillé ce rocher, à l'intérieur, il y a des veines. Et c'est ces veines qui vont conditionner un petit peu la future herminette. Donc eux seuls peuvent savoir comment...
Ah, ils sont contents. Ah, ils sont contents là. Hein.
Comme quoi, un bonheur, c'est simple. Hein.
Ouais, c'est très simple. Ouais. Mais là, il a frappé au bon endroit. Tu vois. Attention, attention.
Wow. Assez captivant comme extrait. On a pu entendre ces cris de joie dont tu parlais. Bon, alors, une fois que la pierre est cassée, qu'est-ce qui se passe ?
D'un rocher, on va se retrouver avec une pierre brute, une pierre taillée. Donc, ils vont en faire peut-être, je sais pas, ils vont en récolter peut-être une dizaine. Et après, dès que va arriver midi, de toute façon, c'est invariable, on voit que les nuages arrivent, il faut rentrer au village. Donc, il faut remonter toute cette immense pente. Et après, à côté des cases, l'après-midi, même s'il pleut, ils se mettent dans des petits coins. De la pierre, pierre taillée, la pierre va devenir polie. Et après ça, il y a des gens qui vont partir dans la montagne, vont aller chercher un bois qui s'appelle le bois de tellier. Et avec ce bois de tellier, ils vont fixer la pierre polie dessus, avec du rotin, etc. Et ça va donner une herminette. Donc il y en a qui sont petites, il y en a qui sont beaucoup plus grandes, dont on peut se servir pour couper les arbres, mais qu'on se sert le plus facilement dans le territoire Ouna, justement dans les territoires de culture, pour cultiver les ignames, les taros, les houbis, tout ça. Donc ça, c'est un objet au quotidien. Et en même temps, c'est une arme. Parce que quand ils se battent, il n'y a pas très longtemps, justement, je parlais de Téclope. Il a un nom extraordinaire, s'appelait Téclope. Téclope qui semble belou. Il y avait un tailleur de pierre, un des derniers, un des plus anciens. Soi-disant, il avait jeté un sort à son fils. Et son fils, qui n'était pas très vieux, il doit avoir 20 ans à peu près, il est mort. Personnellement, moi, je sais que son fils est mort de maladie foudroyante. Parce que dans ces, sous ces latitudes, le climat est tellement mauvais, ils n'ont aucune hygiène, etc. Donc la moindre plaie, c'est fini, quoi. Le gars, il est mort. Mais Téclop, non, avait décidé que c'était ce tailleur de pierre qui était fautif, parce qu'il avait dû dire quelque chose. Mais ça a suffi, ce petit quelque chose. Téclop, il a pris l'âge de pierre, en plein milieu du village, devant tout le monde, les femmes, les enfants, il lui a mis un coup derrière la nuque, donc il lui a ouvert le cou derrière. Donc il est mort. Et personne n'a rien dit. Parce que Téclope, quelque part, quand il dit quelque chose, il n'a pas un qui la ramène. Téclope, il a peut-être, je ne sais pas, 100 000 hectares de terrain, jusqu'à la passe des Pommecs, en haut, toute la forêt lui appartient. C'est lui qui le dit, tout le monde le respecte. C'est vrai qu'au niveau gouvernemental, Téclope, il est rien, quoi. Surtout que toutes ces régions regorgent d'or, de cuivre, etc. Et qu'un jour, si les multinationales débarquent ou le gouvernement indonésien, Téclope, il fera pas le poids avec son arc et ses flèches. Mais bon, pour en revenir au village de l'Arié, donc cette herminette, elle est avant tout, elle se servait pour les combats. Maintenant, bon, ils font plus la guerre. Elle sert pour travailler dans les cultures et elle sert pour couper les arbres. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et moi, ce que j'en retiens, c'est justement la façon de comment d'un rocher, on fait une pierre taillée, on arrive sur une pierre polie et on arrive sur une herminette. Et ça, si on ne sait pas faire, c'est des années et des années d'études, d'être avec ses ancêtres, d'être avec les vieux, et de voir que des jeunes aussi qui suivent Hook et que Hook leur explique comment faire. C'est comme ça, finalement, que ça se perpétue. Sauf que maintenant, l'âge de fer est rentré un peu partout en Papoua. C'est normal, le commerce avec les Indonésiens. Donc, elle périclite. Mais elle, dans les montagnes, non. Elle reste.
Je te propose d'écouter un nouvel extrait, toujours de l'émission Ushuaïa Nature. Un moment assez intéressant où Nicolas Hulot, justement, évoque les guerres entre clans et te demande de poser une question un petit peu gênante à Diman.
Ils se font encore la guerre ici ? On ne fait plus vraiment la guerre maintenant. Je crois que les guerres se sont terminées au début des années 70. Mais de temps en temps, entre les villages, il y a toujours quelques petits tricks. Donc il faut toujours faire attention.
Je peux lui demander un peu la dernière fois qu'il a fait la guerre ici.
Diman.
Kapan trahir ada prang di sini, landa l'arrière. Il ne veut pas me répondre. Un diman, capan à d'apprendre ici. Doulou.
Ce silence en dit plus qu'un long discours. Car qui dit guerre dit souvent anthropophagie. Non par goût de la chair humaine, mais parce qu'il est recommandé de manger son ennemi pour le punir et empêcher son âme de nuire après sa mort.
C'est quand même un sacré personnage, ce Diman, et on sent vraiment qu'il y avait une aura autour de lui.
Ces tailleurs de pierre, donc, comme Diman Balio ou Hook, ils pouvaient se targuer d'avoir beaucoup de femmes. Diman avait plus de 8 femmes, justement, parce que c'était un des meilleurs tailleurs de pierre de la région. Et les pierres, on les vendait justement à l'ouest, donc dans la région de Naltché, au nord, Bepomek, à l'est, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant donc Oxibile et tout ça, et au sud chez les Korowais. Et en même temps, donc, eux, ils vendaient c'était un échange, du troc. Ils amenaient des haches de pierre et en même temps, ils récupéraient du rotin et du bois d'arc, donc pour faire des arcs, parce que dans la montagne, il n'y avait pas ce bois-là comme on trouve chez les Korowais. Ailleurs, ils récupéraient du sagou, ailleurs des noken, c'est-à-dire ces paniers que les femmes papous portent. Donc tout était basé sur un système de troc, et tout le monde savait que la région de l'Arié, Langda, l'Arié, Kinyalengdé, c'était le fief des grands tailleurs de pierre.
Et ben en tout cas, ça donne envie d'aller les voir, Seuna, les voir tailler des pierres devant nous. Alors pas pour faire la guerre, hein, mais c'est vrai que la taille des pierres, pour nous tous, ça appartient à un passé très lointain, dont on n'a plus aucune trace. Et là, en se rendant au village de l'Arié, on peut voir comment les hommes vivaient dans d'autres régions du monde il y a très longtemps. C'est assez fabuleux parce que là-bas, c'est pas par le folklore pour les touristes qui font ça. D'abord parce qu'il y a très très peu de touristes qui s'y rendent, mais surtout parce que c'est bien comme ça qu'ils vivent encore aujourd'hui, dans leur mode de vie présent. Parle-nous maintenant, si tu veux, de la vie en communauté chez les Houna. Comment s'organise la vie au quotidien? Et aussi, surtout, parle-nous du rôle très important des femmes dans la communauté.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le village, ce sont des cases rondes, hormis la petite église qui est carrée. Donc, il faut savoir d'abord, dans la société Houna, il y a les cases rondes, donc pour les hommes, ce sont les plus grandes. On les appelle les Yowa, c'est la case communautaire des hommes. Et il y a la case des femmes, les Diba. Donc, elles sont beaucoup plus petites. Déjà, hommes et femmes ne vivent jamais ensemble. C'est très, très rare. Donc, ça veut dire que quand ils veulent se voir et tout, tout se passe dans les jardins de culture ou dans la forêt. C'est là que les rapports conjugaux se font. Donc, les enfants naissent, on ne sait pas où. Mais c'est comme ça. C'est la vie à la papou. Et les femmes, elles ont un rôle très important dans la communauté parce que je dois dire que ce sont elles qui travaillent le plus. Elles font tout. Les hommes, eux, ils faisaient la guerre. Ils vont couper des arbres, ils font des herminettes, ce qui est très important, parce que comme ça, ils pouvaient acheter des femmes, mais c'était leur pouvoir qui était quelque part. Mais la femme, elle fait tout. On peut dire que c'est la femme de bas qui sert à toutes les tâches. Donc, elle travaille 15 heures par jour, je pense, surtout là-bas dans des zones où il faut descendre et monter. Elle transporte, elle va chercher les ignames. Elle va travailler avec un bâton à fouir souvent, aller chercher les patates douces, etc. Enlever les mauvaises herbes. Les hommes, ils ne le font pas ou rarement. Donc elle va faire ça en transportant les enfants. Elle a souvent deux enfants dans le dos. Les enfants, elle ne les pose jamais par terre. Toujours les enfants se baissent comme ça. Elle se baisse, elle se lève. Et quand elle rentre dans l'après-midi, mais elle porte des charges de plus de 50 kilos sur des pentes inouïes, tu les vois remonter. Elles arrivent, il faut qu'elles s'occupent des cochons. Parce qu'il y a une chose, j'en ai peut-être pas déjà parlé dans la série sur les Dani, dans toute la Papoua, moins dans le sud, parce que dans le sud, il y a beaucoup moins de cochons que dans les montagnes. Le cochon, c'est vraiment la montagne. Pareil chez les Houna, le cochon a un prix démesuré. Moi, quand je vais faire avec des clients une fête du cochon, j'achète un petit cochon qui doit faire des fois 10 kilos, 15 kilos, on me le fait payer déjà 25 millions de roupies. Donc vous voyez un peu, c'est complètement démesuré. Mais pour eux, c'est normal. Donc quand elle s'occupe des cochons, c'est qu'il faut qu'elle aille chercher les cochons au fin fond dans la forêt. Elle les ramène le soir, je les vois, et souvent les femmes arrivent dans la pénombre. Et le cochon, il a une petite porte, parce que le cochon vit avec les femmes, dans la diba. Il a sa petite porte, il rentre sur le côté, la femme rentre de l'autre côté, mais dès qu'ils sont dedans, donc il a son petit coin d'abord où elle va lui donner à manger, donc c'est important, et après qu'elle lui ait donné à manger, le cochon, hop, il y a une autre petite porte dedans où il rentre et il va dormir avec les femmes et les enfants, filles. Et moi j'ai vu, notamment en territoire Houna, où les femmes allaitent les cochons. Pas les gros, mais les tout petits. Mais ils sont tout jolis, il y en a qui sont un peu marrons. Ils sont très sympathiques, on dirait des petits chiens, ça cavale un peu partout dans le village. Et elle les allaite, parce que il faut dire qu'un cochon est plus important qu'un enfant dans les territoires des montagnes papou. Parce que le cochon, bah, il rapporte, c'est beaucoup de sous, et puis bah, c'est une valeur. C'est la valeur de toujours, de tous ces peuples papous, même de l'autre côté, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors que des enfants, ils peuvent en faire plein, mais puis le cochon, il se mange. Lorsqu'il y a des grandes fêtes importantes, quand un cochon va être tué, c'est une valeur symbolique énorme. Donc les femmes dorment toujours avec les cochons, donc ce cochon est important. La femme, il est là son rôle. Après, quand elle doit aller porter, aller jusqu'à Langda, où il y a parfois un marché, c'est la femme qui va à Langda. Donc il va transporter des ignames, qui va transporter des tas de choses, mais des charges inouïes, descendre, remonter, rester au village, rentrer le soir. Elle aura fait dans sa journée 20-25 kilomètres. C'est complètement phénoménal. Moi, je vois les mollets qu'elles ont quand je les suis des fois dans la montagne. Ah, mais je fais pas le poids. Hein. C'est pas la peine. Sur la durée, mais ils nous larguent hein, dans la forêt ou dans la montagne. Donc, ce sont des gens. Les femmes sont exceptionnelles. Vraiment. Et j'aime bien aussi les femmes. Elles ont un rôle particulier dans la danse. Quand il y a une fête, fête de clan, par exemple, fête au village, ou moi, quand je suis là, je viens avec des voyageurs ou quand je viens tout seul, je ne peux pas repartir de l'arrié sans qu'il y ait une fête. Donc je suis obligé de faire tuer le cochon. Donc je suis obligé de le payer. Donc ça me coûte à chaque fois la peau des fesses, comme on dit. Hein, 20 à 25 millions de roupies, vous vous rendez compte, pour manger. Moi je ne les mange même pas le cochon, c'est tout eux qui le mangent. Et là les femmes, elles dansent. Donc les anciennes sont importantes, c'est elles qui dirigent un petit peu la danse. Les hommes sont au milieu, donc ils tapent sur leurs arcs et leurs flèches avec des sons d'oiseaux, des sons qu'on a entendu par ailleurs, il n'y a qu'en Papouas. Et les femmes tournent autour avec leurs petites jupettes et tout. On dirait comme des. D'ailleurs, elles ressemblent à des casoars. Je dirais quand la jupette comme ça, elle sur le corps et tout, c'est voilà, c'est scénique, c'est vivant. C'est... Elles disent rien, elles ne se plaignent jamais. Ce sont vraiment les vrais héros de la Papouas. Pas que finalement chez les Hounam, mais un peu partout. Quoi. Par contre, les hommes, eux, à l'image de Téclop, quand il n'est pas à la rivière, il va se balader dans son territoire de chasse. Comme je disais tout à l'heure, il a des milliers d'hectares, jusqu'à la passe des Pommecs, en descendant le bas de la rivière Aimée. Et dans sa forêt, il y a je ne sais pas combien de millions d'arbres. On peut être au milieu de sa forêt. Si par exemple, toi, tu veux monter dans un arbre, histoire de dire, tiens, je vais grimper dans cet arbre parce que j'ai vu quelque chose, tu n'as pas le droit. Tu dois demander la permission. En Papouas, il faut toujours demander la permission quand on veut faire quelque chose. Quand vous voulez traverser un terrain d'igname, par exemple, si vous n'avez pas demandé la permission, c'est une guerre. Le gars, on peut se faire tuer si on ne paye pas ce que la personne à qui appartient le terrain, on ne lui paye pas quelque chose, en cochon souvent. Donc ça atteint des sommes phénoménales. Ou en igname, ou en hache de pierre. Si le gars ne paye pas, il est mort. Le seul fait d'avoir traversé un terrain sans avoir demandé la permission. Je me souviens de Téclop, il y avait toujours un cochon du village de Kinyalengdé en face qui venait farfouiller dans la forêt. C'était rien du tout. Une fois Téclop, il l'a surpris. Il a dit aux gens de Kinyalengdé, je veux pas que vos cochons rentrent dans mon territoire. Le cochon, lui, il se balade et il sait pas où il va, il connaît pas les limites d'un territoire. Il est revenu plusieurs fois. Téclop, il s'est fâché, il a attrapé le cochon, il l'a découpé en morceaux. Tué à flèche d'abord, découpé en morceaux, et injure suprême pour un papou, plutôt que de le manger, ce qui est normal parce qu'il ne mange pas souvent de viande. Non, il l'a jeté dans le ravin. Il y a eu la guerre. Oh ben, les gens de Kinyalengdé étaient... Et ça a correspondu à une époque où moi j'étais venu avec un petit groupe de voyageurs, et quand on est reparti du village de l'Arié, le matin, les gens de Kinyalengdé descendaient à la confluence de la Aimée et de la Moumnié, qui sont deux rivières, et là il y a un pont suspendu. Et les gars, ils descendaient avec les arcs et les flèches. Et moi, j'ai été obligé d'envoyer des éclaireurs en avance parce que j'avais pas envie qu'on nous tire dessus comme des lapins. Et moi, les gens de mon groupe, ils disaient, bon, on va se faire flinguer, Thierry. Fait qu'est-ce qu'on fait? On passe par ailleurs. Je dis, on peut pas, il y a pas d'autre chemin. Et après, donc les guerres, ils s'étaient planqués dans les herbes. Et puis quand je suis passé, ils nous ont pas tiré dessus. Parce qu'ils savaient quand même qu'on était des blancs. Moi, je connais plein de gens de Kinyalengdé. Donc ils ont pas osé, je crois. Mais si ça avait été que des papous, ils se foutaient sur la gueule, hein. C'est le mot, avant de remonter sur Langdar. Voilà, donc, les hommes et les femmes, à l'image de la femme de Hook et Téclop, sont des gens exceptionnels, quoi. Qui, pour moi, je veux pas... Qu'est-ce qu'ils m'apportent ils me font rire. Téclop me fait toujours rigoler. Puis en même temps, bon, il m'amène un savoir qui date. J'ai l'impression, quand je suis à l'Arié, moi, quand je suis au bord de la rivière, j'ai l'impression d'être à la genèse de l'histoire. Quoi. Et ça, nulle part ailleurs, je l'ai vu.
On sent vraiment que tu as vécu de sacrées aventures en terre papou chez les Houna et les autres, à la limite de participer à une guerre, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on y pense. Eh bien écoute Thierry, merci beaucoup pour ce troisième épisode à la rencontre des peuples papous. On l'a compris, les Houna sont vraiment un peuple unique en Papouasie. En même temps, je pense qu'on peut dire que là-bas, tous les peuples sont uniques. C'est assez fou quand on y pense, car ce peuple a des traditions qui sont héritées du néolithique. Et pour aller en témoigner, il faut le mériter. Car c'est un lieu très difficile d'accès et heureusement, grâce à toi et grâce à tes aventures passées, on peut y aller. Tu m'avais dit une fois en aparté que tu es, au monde, la seule personne qui puisse vraiment aller dans ce village de l'Arié sans aucun problème. Ça, c'est vraiment impressionnant et j'espère que tous les auditeurs qui ont ce sens de l'aventure, ce sens de la découverte de culture vraiment à l'opposé des nôtres, auront envie d'y aller. Et puis s'ils ont envie d'y aller, ben, ils savent qui contacter, c'est toi, Thierry Robinet. Merci beaucoup Thierry et on te retrouve très bientôt.
Ok, merci beaucoup Romain et à la prochaine.
Nous voilà au bout de cette troisième aventure déjà en Papouasie, chez les Houna de l'Arié, le peuple des tailleurs de pierre. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter les récits de Thierry quelques mois à préparer l'interview et que votre soif d'aventure aura été comblée. C'est vrai qu'on ne parle pas là d'un tourisme tranquille et reposant. L'Arrier est vraiment un endroit exceptionnel de par sa confidentialité dans le monde globalisé dans lequel nous vivons et aussi de par ce peuple des Houna qui vit encore à un autre âge avec des coutumes et traditions presque inchangées. Et pour aller le rencontrer en personne, ce peuple des Houna, vous l'aurez compris, il faudra une bonne dose de courage parce que ça se mérite. Alors si l'aventure venait à vous tenter, et puis aussi pour retrouver les notes de l'émission et la localisation du village sur une carte, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/20 et vous pourrez y poser toutes vos questions. Je voulais aussi vous dire surtout continuez à laisser vos commentaires sur l'émission, que ce soit sur la page iTunes, Facebook, Twitter et le site web. Ça procure toujours un immense plaisir de voir vos retours. Aujourd'hui, j'ai envie de citer C. Tyler qui a laissé 5 étoiles sur iTunes et qui a dit « On a l'impression d'y être, merci à Romain et à ses intervenants, mention spéciale à Thierry Robinet. Quand je vous écoute en voiture en allant au boulot, je fais un petit crochet par l'Asie. » Fin du commentaire. Eh bien, merci beaucoup à toi pour avoir pris le temps de laisser le petit mot. Et puis, j'espère que ce nouveau crochet par la Papouasie aujourd'hui t'aura beaucoup plu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le dernier, puisque dans le prochain épisode, Thierry nous emmènera rencontrer le peuple qui vit au sommet des arbres, le peuple Korowai. Alors, restez connectés en aimant la page Facebook, en vous abonnant au podcast sur votre mobile par exemple, ou encore en vous inscrivant à la newsletter. Plein de bonnes choses sont à venir. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.